Vous écoutez France Culture.
Affinité élective, une émission de Francesca Isidori. Écrivain, traducteur de Gertrude Stein, de John Cage, de La Monty Young et de Kurt Schwitters, fondateur et animateur de la revue Luna Park, consacrée à la fois à la création contemporaine et à l'histoire des avant-gardes, et directeur de la collection qui prolonge la revue et où ont paru Jacques Villéglé, La traversée Urbi et Orbi, Pierre Restany, Le Nouveau Réalisme, Les écrits d'Yves Klein, par Nicolas Charlet. Devenu éditeur sans s'en rendre compte à l'âge de 19 ans et historien sans le savoir, il est ce chercheur indépendant qui s'est toujours tenu à l'écart des institutions et des universités. Spécialiste des avant-gardes et plus particulièrement du mouvement Dada, auquel il a consacré plusieurs ouvrages dont « Journal du mouvement Dada » qui a obtenu le Grand Prix du Livre d'Art en 1990 et « Archive Dada Chronique » paru en 2005 aux éditions Hazan, une somme passionnante de près de 600 pages réunissant des textes originaux, des manifestes, des souvenirs, des témoignages, de nombreux inédits, hors d'atteinte, épars, des entretiens rares qui permettent de lire dans les mots mêmes des protagonistes l'histoire de ce mouvement, accompagnée d'une chronologie détaillée et commentée de 1912 à 1968. Propos et ambition déclarée de cet ouvrage majeur, montrer à quel réservoir puisent des œuvres droites, précises et à jamais incomprises, selon les mots de Zara dans le manifeste Dada de 1918, divulguer Dada comme une création continue de pensées et de concepts, et non pas des images iconographiquement et muséalement récupérables, alors qu'elles appartiennent à la plus formidable protestation, la plus intense affirmation. Les affinités électives de Marc Taché. Taché, bonsoir.
recevoir Francesca Isidori.
On vient d'écouter une pièce de John Cage, une pièce qui s'intitule A Room, qui s'intitule une pièce, une chambre, une oui. pièce, et qui fait partie des pièces pour piano préparé.
Non, non, justement, c'est pas encore le piano préparé, mais c'est une pièce très apaisée, si j'ose dire, quand on connaît un peu l'œuvre de Cage. C'est pour ça que j'ai souhaité la faire écouter entendre. Ce soir. Je la trouve très, très belle, très minimale. Elle date de 1943. Donc c'est quasiment le tout premier John Cage. C'est joué par Joshua Pierce à White Plains, dans l'État de New York.
Marc Dachy, la photo que vous avez apportée à ma demande est une photo où John Cage apparaît. Donc cette émission commence sous le signe de John Cage.
Oui, et puis il y a un peu plus d'un mois, Merce Cunningham est mort. Ça fait une coïncidence de plus. Et c'est vrai que c'est à votre demande que j'apporte cette photo que j'hésite toujours à montrer. C'est quand j'ai rencontré donc jeune, puisque c'est une photo qu'il faut amener jeune. Je crois que votre pari, c'est avons-nous démérité d'une photo de notre jeunesse ou de notre jeunesse. C'est une photo où, effectivement, très étonnamment, j'ai rencontré John Cage, il m'a proposé de jouer aux échecs. Et un de mes amis était là, un ami d'Esprit Fluxus, qui photographiait, par exemple, les choses. Il vous demandait de vider vos poches sur un mouchoir, il photographiait tout ce que vous aviez dans vos poches. Et là, il était là, il a photographié cette scène qui n'était pas du tout destinée à être...
immortalisée.
Comme vous dites, oui. Mmh. Académisée à ce moment-là, presque... Et c'était très touchant parce que ça correspond un peu aux procédures, les chance operations de Cage. Le hasard joue. Et Cage, par hasard, m'a proposé de jouer aux échecs. Et par hasard, Jean était là pour faire cette photo. Et par hasard, cette photo, évidemment, je l'ai forcément conservée. Et elle a fini par devenir pour moi très symbolique parce qu'effectivement, son sens, si je voulais amener à votre demande, c'est que c'est un peu le passage, comme j'étais très jeune, 18 ans, c'était le passage que nous vivons tous, je pense, nous sommes arrachés aux aléas familiaux, scolaires, pour aborder autre chose. Et évidemment, pour moi, comme pour beaucoup, cette autre chose, c'était l'art. Et quel art extraordinaire que celui de John, une liberté très profonde, très sereine, très, très profondément transformatrice de l'individu.
Mais ce jour-là, ce jour où la photo a été prise, vous aviez 18 ans, vous jouez aux échecs avec John Cage, vous connaissiez le travail, l'œuvre, la musique de John Cage, vous saviez qui était John Cage?
Alors oui, parce que c'est un ami commun à John et moi, le compositeur Jacques Beckart, qui avait publié le premier ouvrage, un livre-boîte sur John Cage en 1968, qui m'a dit « John, est de passage, viens à la maison ». Et j'avais, bien sûr, par John, une très bonne connaissance de l'œuvre, et même, par Jacques Beckart, et même à cette époque-là, nous avions formé un tout petit groupe de musique qui s'appelait Transition, d'où d'ailleurs le nom de ma maison d'édition par la suite, enfin ma maison, ma modeste unité d'édition, Transédition, avec Takehisa Kusugi, Ryo Koike, Marc Moulin, et nous avons même joué avec John à deux ou trois reprises. En allant, par exemple, aussi dans les rues, prendre du son avec un agra et le ramener pour le concert, par exemple. Ou alors, des procédures, on a joué aussi d'après une carte postale à nuages, par exemple, ou avec des boîtes en carton.
Vous disiez, Marc Dachy, que cette photo représente un moment charnière de votre vie. J'allais vous demander quelle avait été votre vie jusque-là. Alors, je sais que un dadaïste, Marcel Janco, a dit que un dada n'écrira jamais ses mémoires. Donc, je ne vous demanderai pas d'écrire vos mémoires, surtout à la radio, mais seulement de réunir, comme sur un échiquier, quelques pièces de votre parcours. Alors, moi, je jette la première pièce, Naissance à un vers, en 1952. Et après, je m'arrête là parce qu'il y a un grand saut.
Je dis toujours en vers.
Oui, parce que vous avez sans doute raison. Je ne sais jamais.
Non, ça se dit là-bas comme ça, comme vous l'avez dit. Oui. Mais j'aime beaucoup le côté en vers et contre tout, bien sûr. Et puis, Ça me fait toujours penser à cette scène dans La maman et la putain, vous savez, où il y a Pic aux deux magots qui dit « Tu ne vois pas ?»
Jean-Noël Pic.
Oui. « Oui, je suis en vert. » »« Oui, dit l'autre. » « Et quoi ?»« Eh bien, en vert et contre tout. » Et puis alors, il y a cet « en vert » aussi, enfin, le « en vert », comme le dirait Mallarmé, « en vert et prose. Mm-hmm. » C'est comme ça que j'ai pu me réconcilier avec cette ville. J'exagère, j'ai toujours beaucoup aimé Anvers, qui est un port international, mais qui est pour moi plus l'endroit dont parle Burroughs dans ses livres, ou Artaud quand il s'embarque pour l'un de ses grands voyages. Et je ne sais plus où nous en sommes maintenant avec Anvers et contre tout.
Oui, parce que vous êtes en train d'esquiver ma question qui était quelle avait été votre vie jusque-là, jusqu'au moment de cette photo de 18 ans.
J'allais vous dire formidablement banal, mais au fond, ce serait fou, puisque elle est suffisamment complexe pour que j'aie un violent désir de m'en arracher par l'art et par d'autres moyens, du reste, que tous les jeunes gens connaissent dans ces âges-là.
Alors, je sais aussi que vous séchiez les cours au lycée pour aller travailler à la bibliothèque et que vous travaillez donc en cachette. Depuis l'âge de, je sais pas, 16 ans, 17 ans.
Vous êtes bien la seule à qui j'ai dit ça d'ailleurs, parce que c'est censé ne pas se savoir. Oui, absolument. J'ai commencé à réunir donc les écrits d'un dadaïste qui s'appelait Clément Pensars, qui était très passionnant et très peu connu. Et en tirant la pelote, je me suis retrouvé rue de la Gaîté à Paris, chez Georges Huniet, qui est un des historiographes du mouvement dada, qui avait dans son grenier les manuscrits inédits de Clément Pensars, que j'ai eu l'autorisation de recopier devant lui pendant des heures, de façon à publier finalement, quelques années après, un premier livre que j'ai publié dans ma petite unité d'édition, un livre chez Champs Libres.
Donc, Clément Pensars, dadaïste belge mort à l'âge de 37 ans, si je ne me trompe pas, en 1922, peintre, sculpteur, graveur, mais surtout poète. Et en 72, vous éditez sur un mur blanc et autres textes. Et au fond, c'est par ce dadaïste qui est un membre mineur, on peut dire presque inconnu du mouvement dada, que vous, comme vous l'avez dit, vous tirez le fil de la pelote qui vous amènera à devenir ce grand éminent spécialiste du dadaïsme que vous êtes. Membre mineur, Pensars, mais en même temps peut-être le plus dadaïste à vos yeux.
Oui, ce qui m'avait frappé, bon, d'abord cette mort à 37 ans, très jeune, comme Khlebnikov, Rimbaud, par exemple. Khlebnikov, le futuriste russe. Oui, c'est un dadaïste mineur parce que, mort en 22, il n'a pas du tout eu, comme les autres, une œuvre qui aurait pu le faire connaître. Mais un dadaïste fracassant et terriblement authentique qui m'avait beaucoup impressionné. Et ce qui m'avait impressionné, c'est que, bien qu'inconnu, il y avait sur lui des passages très étonnants d'Aragon, qui lui avait porté une très grande admiration. Et toutes les personnes qu'il avait rencontrées avaient témoigné de leur émotion et de l'importance de l'œuvre. Effectivement, quand j'ai commencé à découvrir cette œuvre, j'étais très impressionné par le fait qu'il a pris un grand risque mental, si vous voulez. Dans le dadaïsme, il y a cette position de base qui est la destruction de la logique. D'ailleurs, il avait dit cette phrase qui lui a peut-être, en somme, coûté la vie, hein, sans doute par un effet de somatisation et par le risque pris en écrivant, puisque comme définition d'existence, c'est tout de même très risqué. Dans la vie, n'est intéressante que la fantaisie chevauchant le hasard. C'est après 6 mois de méditation sur un aveugle mur blanc que je compris que dans la vie n'est intéressante que la fantaisie chevauchant le hasard. J'ai adhéré totalement à cette définition d'existence. Et j'aime infiniment la vie et le hasard et la fantaisie.
Marc Dachy, pour éditer Clément Pensars, en 72, vous créez maison d'édition, enfin vous l'appelez une unité d'édition, Transédition, qui existe encore aujourd'hui. Donc vous êtes devenu éditeur, comme je le disais tout à l'heure, presque sans vous en rendre compte. Et vous n'avez jamais cessé de l'être, pratiquement. Et en 74, vous fondez la revue Luna Park. Le choix du titre est lié aussi à Clément Pensars ou...
Le mot se trouve dans un de ses poèmes, mais en fait, il n'est pas du tout lié à cela. Je voulais un mot international, non littéraire, ludique et percutant. Je pense que ça l'est. Et si je suis devenu éditeur, presque sans le savoir, c'est, je pense que la décision était au fond plus profonde que je ne le pensais à l'époque. C'était simplement parce que je n'avais pas envie de demander de prendre du temps, de perdre du temps à le proposer à un éditeur. Par la suite, d'ailleurs, beaucoup d'éditeurs m'ont proposé de le publier. Et la seule offre qui m'a apparu valable, c'était celle de Champ Libre.
De Gérard Leboubissi.
Voilà, Gérard Leboubissi, Champ Libre, dont nous reparlerons certainement. Mais je pense que c'était très important aussi d'aller simplement chez un imprimeur et d'imprimer de sa propre autorité, justement sans demander la caution ou la légitimation par un éditeur en place. Ça me semblait assez inhérent, intrinsèque à ce type d'œuvre. D'ailleurs, les dadaïstes ont souvent exposé, non pas dans des galeries, mais dans des lieux qui n'étaient pas culturels, qui n'étaient donc pas aliénés, et ont souvent produit eux-mêmes leurs livres, sans demander d'autorisation à qui que ce soit. C'est d'ailleurs un des grands clivages entre Dada et les surréalistes. Quand Breton et Aragon étaient déjà en train de publier à la NRF, Tsara ou Picabia ou Pansars publiaient leurs propres ouvrages sous des enseignes qui étaient les leurs.
Dans le numéro 1 de la revue Luna Park, 1974, on pouvait lire des textes de Christian Dautremont, de Frédéric Ball, de Jean-Jacques Schull, de Sophie Podolsky, un texte de vous intitulé « Mots de mémoire », M-A-U-X. Et c'était une revue, et c'est toujours, encore aujourd'hui, conçue, comme vous le dites, comme un réseau, avec des agents actifs et dormants qui se réveillent un temps utile pour proposer des contributions.
Oui, c'est une phrase de... C'est comme ça que Dagen a, avec talent, transcrit un entretien dans Le Monde. Oui, c'est dire que, effectivement, un peu comme dans Dada, d'ailleurs, la revue est un réseau, bien sûr, c'est un réseau subversif. Ah, j'utilise le mot avec beaucoup de précaution, mais enfin, nous nous comprenons. Je me comprends, les auditeurs comprennent, avec force guillemets, mais oui, subversif, avec une invention lexicale, une transformation de... Comment expliquer ça? Le mot me manque, une transformation transparente, comme disait Tristan Tzara, transformation transparente.
Alors, dans ce premier numéro, il y a aussi une série de photos, de très très belles photos de William Burroughs. Et William Burroughs, c'est... comme John Cage, quelqu'un que vous avez rencontré d'ailleurs à peu près à la même époque, vers vos 18 ans, 19 ans, et qui a beaucoup compté.
Oui, alors on peut évidemment parler des rencontres en termes autobiographiques. Évidemment, ce qui est important chez Cage ou chez Burroughs, c'est évidemment l'intensité de leur procédure créatrice. Chez Cage, bien sûr, ce sont les opérations du hasard, c'est le rapport au bruit, au son, considéré comme... comme musique, c'est-à-dire chez lui, cette définition de la beauté de la 6e avenue, belle parce qu'il l'écoute, c'est une très belle définition de tout son art qui consistait à, en toutes circonstances, à entendre. Et d'ailleurs, chez Cage, il y a des très belles pièces qui ont été faites pour la radio, avec Kenneth Patchen, par exemple, au début de sa carrière, à la même époque, à peu près, en 1939. Et chez Burroughs, bien sûr, ce qui était proprement fascinant et qui m'a fait... Alors là, ce n'est pas du tout par hasard, j'ai vraiment fait la démarche d'aller le voir à New York, 77 Franklin Street, au-dessus d'une blanchisserie chinoise. Cette blanchisserie chinoise qui revient régulièrement dans les cut-up pour lui demander justement la permission de publier ses photos dans la revue et plus réellement pour faire sa connaissance parce que c'était quelqu'un qui, avec le festin nu, les garçons sauvages, Nova Express, le ticket qui a explosé, était absolument déterminant dans la transformation de la littérature. Et avec un contenu profondément innovateur, Nova Express, oui, innovateur.
Fatboy Slim is fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fucking and fucking and fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fucking and fucking and fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fucking and fucking and fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fucking and fucking and fucking in
we'll be right back.
boy Slim is fucking in heaven. Fucking and fucking and fucking in heaven. Fat boy Slim is fucking in heaven. Fat boy Slim is fucking in heaven. Fat boy Slim is fucking in heaven. Fucking and fucking and fucking in heaven. Fat boy Slim is
fat boy Slim, Marc Dachy.
Oui, après Burroughs, rencontré à New York, c'est une bonne transition. Parole explicite, comme ils ont mis à l'intention des parents sur l'édition américaine du CD que j'ai acheté à New York, publié par Skint Records en 1998. Fatboy Slim, c'est le tag, et c'est cette musique, c'est la répétition. Donc la répétition, telle que je l'ai découverte d'abord chez Gertrude Stein.
Que vous avez traduit.
Que j'ai traduit, oui, La Terre est ronde, et puis d'autres textes. Luna Park a consacré un numéro spécial à Gertrude Stein en 1978. Écrivain majeur, considérable et inconnu en France. Elle est connue, mal traduite, et en général d'ailleurs intraduisible. Les très grands textes qui ont été réédités par Something Else Press, la maison d'édition de Dick Higgins aux États-Unis, la maison d'édition Parafluxus, si on peut ainsi s'exprimer, a publié les grands textes de Gertrude Stein. Et Gertrude Stein, avec Brian Gysin, le grand poète sonore, ou Kurt Schwitters, est une des grandes voix de la permutation visuelle, littéraire. Et je trouve évidemment merveilleux que quand vous vous promeniez dans les rues de New York et qu'à un coin de rue vous trouviez un type qui sort de Harlem et qui renverse un seau et qui, avec deux bâtons, qui ne sont même pas des baguettes, mais des bâtons ramassés aussi ailleurs, vous réinvente, comme Fatboy Slim, un type de répétition et de musique et de rythme qui est inné dans cette ville pleine d'énergie et passionnante, qui est une ville où vous avez aussi bien Cunningham que Cage, que Fatboy Slim, et avec cette relation inouïe avec un écrivain rare comme Gertrude Stein ou Brian Gysin ou Kurt Schwitters, que peut-être d'ailleurs ces gens ne connaissent pas, mais où on voit donc justement, peut-être précisément parce qu'ils ne se connaissent pas, on voit la profondeur et la nécessité de ce type de rapport au langage, au rythme, et dans le cas de Brian par exemple, à l'image, à la permutation visuelle, puisque Brian Gysin, comme Kurt Schwitters, ont pratiqué des types de collage et de permutation. Et là, il y a en plus fucking, 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 qui est évidemment une provocation in heaven, où j'entends, comme dans Ginsberg, dans le fameux poème publié en 1956, Hurle, Howl, dont il disait que c'était un livre écrit aux cieux. Et d'ailleurs, il a souvent dit qu'il avait été très marqué par Tristan Tzara en écrivant Howl. Il était marqué par Tzara parce qu'il avait pu lire en 1951, les textes de Tzara dans l'anthologie faite par Robert Moderwell, le peintre. Mmh. Et de même, Johannes Bader, le dadaïste berlinois, disait que ses livres étaient écrits dans les cieux, de même que Ginsberg disait que Howl avait été écrit dans les cieux.
Mmh. Et le texte, un des textes que vous consacrez à New York, ville où vous avez séjourné longuement, s'intitule, si je ne me trompe pas, Skywriter.
Skywriting, ah oui, oui. Merci de votre attention. C'est une chose qui a été publiée, oui, c'est un journal de voyage qui a été publié dans la revue d'Elaine Fleiss, Purple, le Purple Journal. Et effectivement, c'est un...
Un texte dans lequel on retrouve tout ce que vous disiez à l'instant, oui, de New York.
Oui, la beauté de New York, les sons, l'air marin et la profonde liberté de cette ville. Malgré tout, une liberté qui
vous
reste...
Vous dites que vous vous sentez chez vous précisément parce que vous n'êtes pas chez vous.
Oui.
Marc Dachy, en 89, vous publiez Journal du mouvement Dada 1915-1923, qui a reçu le Grand Prix du livre d'art en 90. Tristan Tzara, Dompteur des acrobates en 92. Dada et les dadaïsmes chez Gallimard en 94. Et d'ailleurs, cet automne, il y aura une nouvelle édition augmentée, un folio essai. Et je ne cite pas tous les livres que vous avez consacrés, les essais au mouvement Dada. Je vais tout droit au dernier, peut-être en date, cet ouvrage magnifique, passionnant, qui s'intitule Archives Dada Chronique, paru en 2005 aux éditions Hazan. Un projet mené sur une période de 30 ans, commencé à New York d'ailleurs, si, oui, je ne me trompe pas.
Oui, parce qu'à New York, il y a une excellente bibliothèque au MAMA, où je pouvais travailler merveilleusement à l'aise, avec une photocopieuse à 4 mètres du bureau.
Alors, je le disais dans mon introduction, il y a des textes, des tracts, des manifestes, des témoignages, des entretiens passionnants. Et, et puis des témoignages qui directs des protagonistes même du mouvement.
Oui, c'était ça.
Et pas seulement des plus connus, enfin de, oui. De tous les.
J'ai voulu déconstruire, si vous voulez, tous mes travaux antérieurs qui étaient en somme une histoire du mouvement Dada. Je crois que les historiens d'art ne font pas très souvent ça. J'ai voulu tout simplement donner au lecteur toutes mes sources, connues ou inconnues, donc inédites ou non. Il a fallu traduire beaucoup de textes pour ce livre. Il y a des inédits complets qui n'ont même jamais été traduits, jamais publiés dans aucune langue. Je voulais en somme défaire le travail de l'historien, parce qu'au fond, quand on est historien, ce qu'au fond je suis sans l'être, une fois de plus, on raconte une histoire. Et Cage, justement, avait cité dans un de ses livres, il avait eu une discussion avec un historien qui s'appelait Aragon, et il lui avait demandé comment on écrit l'histoire. Et Aragon lui avait dit, il faut l'inventer. Et c'est conscient et soucieux du fait qu'au fond, même si on essaye d'être aussi consciencieux et attentif que possible en écrivant, le fait qu'on est toujours dans une interprétation, je me suis dit, eh bien, c'est très bien, je ne vais pas faire d'interprétation. Ce qui est d'ailleurs un concept très cagéen aussi, c'est-à-dire qu'il y a chez lui ce non-intentionnel. Dans son opposition à la musique, il y a le fait que la musique est une intention, alors que les sons arrivent par hasard, on les entend. C'est ça la beauté de la chose. Je me dis, tiens, je vais déposer mes sources. Après ça, quelqu'un peut d'autre peut d'ailleurs écrire une toute autre histoire du dadaïsme que celle que j'ai écrite. Je ne le pense pas vraiment, mais en tout cas, la potentialité est là.
Est là, oui. Oui. Alors, Dada fascine, dites-vous, écrivez-vous, dans la préface de ce livre, parce que le nom désigne plus que des personnes, des événements, des attitudes, des procédures, des lieux et des moments éphémères, volatiles, insaisissables. Et quand les personnes s'affrontent, ce sont d'autres mobiles. Zara, j'écris ce manifeste pour montrer qu'on peut faire les actions opposées ensemble dans une seule fraîche respiration. D'autres devenirs, des actes et des styles, des lignes, des subjectivités qui aimantent la perspective. Donc, des événements, des attitudes, des procédures éphémères plutôt que des personnes, et des affrontements, ou plutôt cette fraîche, seule fraîche respiration où les choses peuvent s'affronter mais respirer
oui, vous avez
dans
relevé,
un même mouvement.
Oui, vous avez relevé une des plus belles citation possible de Zara qui montre bien, effectivement c'est pour ça que Dada fascine, parce que c'est une valeur étalon, une valeur refuge, qui n'a rien à voir avec le surréalisme et son pape, André Breton. Quelque admiration qu'on puisse avoir pour Breton, et que je partage d'ailleurs pour de nombreuses raisons, je préfère tout de même de loin cette attitude d'un Zara qui dit nous pouvons faire ensemble des activités contraires. C'est-à-dire qu'effectivement il y a là un concept d'une énergie en tant que telle. Et Zara est quelqu'un qui a vécu à Zurich au cabaret Voltaire avec Arp, Janko, Hans Richter, Wilson Beck, Sophie Tauber-Arp. Des œuvres très différentes les unes des autres, mais animées par une énergie, anti-guerrière bien sûr, mais surtout le hasard, les mots dans un chapeau, le collage, bien sûr la dénonciation de la guerre, implicite mais jamais théorisée, jamais dite. Et alors ça, c'est un point de vue qu'ils ont partagé avec les surréalistes. Ils n'ont jamais parlé de la guerre. Refus. L'ignorer était pratiquer de l'art. Comme dit Arp, nous nous adonnions aux beaux-arts pendant que le tonnerre, le canon grondait. Et effectivement,
le tonnerre des batteries.
Oui, pendant qu'à Verdun, des dizaines de milliers d'hommes mouraient par jour. Mmh. Eux se livraient à des permutations sur la scène du cabaret Voltaire.
Mmh. Mais Zara, puisqu'on a ouvert ce chapitre très important de Dada par rapport à la guerre, à la Première Guerre mondiale, en 63, l'année de sa mort, Zara déclarait « Dada n'était pas seulement l'absurde, pas seulement une blague, Dada était l'expression d'une très forte douleur des adolescents nés pendant la guerre de 14. Ce que nous voulions, c'était faire table rase des valeurs en cours, mais au profit justement des valeurs humaines les plus hautes. »
Alors ça, je suis touché aussi que vous ayez relevé cette phrase. D'abord, elle était très nécessaire, parce qu'à la fin de sa vie, au fond, Tristan Tzara a dû s'agacer de voir qu'on continue à lui présenter le dadaïsme comme une espèce de blague qui avait eu lieu pendant la guerre. Dans tous les manuels, c'était des anarchistes, des insoumis. des gens qui avaient fui la guerre. Enfin, il y avait des visions très péjoratives ou alors totalement rocambolesques, enfin, comme une espèce de calembour qui aurait duré trop longtemps, comme disait Karl Einstein à Berlin. Mmh. Et agacé de ça, il a tout de même été obligé de faire une déclaration, disons, un tout petit peu en langage clair, pour dire « attention, nous nous battions pour les valeurs les plus hautes ». Et d'ailleurs, le manifeste de M. Antipyrine, qui est un manifeste de 1916, trahit cette douleur, parce que l'antipyrine est le médicament que prenait Tsara, qui souffrait de violentes migraines. Et il souffrait de violentes migraines parce que leurs conditions à Zurich étaient extraordinairement difficiles. C'était effectivement des réfugiés, sans contact avec le monde extérieur. Et une des raisons, d'ailleurs peu connues, mais expliquées par Janko dans un de ses entretiens, qui se trouve dans les archives d'Ada chez Hazan, est qu'ils étaient tout à fait sans moyens et qu'ils ont créé un cabaret aussi pour avoir quelques sous pour même se nourrir. Mmh. Et d'ailleurs, parallèlement, publier cette superbe revue d'Ada, qui a commencé là, à Zurich, avant de se poursuivre.
Alors,
à Paris.
Archives d'Ada Chronique, votre livre est construit à partir des lieux, des foyers du mouvement d'Ada. Enfin, disons que c'est une des charpentes du livre. Zurich, Berlin, Hanovre, Cologne, Paris. Alors, Zurich, vous venez d'en parler, d'Ada Land.
Oui, d'Ada Land, c'est le titre d'un texte d'Harpe sur justement cette oasis qui était... Dada à Zurich, le cabaret Voltaire, Sophie
cabaret
Thébler,
Voltaire, créé par Hugo Ball, auteur de poèmes sans mots, de poésie sonore, oui, qui aura une belle postérité jusqu'au à la poésie sonore des poètes américains. Je pense à John Giorno, mais enfin, il y en a beaucoup d'autres.
Oui, Hugo Ball, que j'ai eu tort de ne pas citer il y a quelques secondes, qui a déclaré que cette poésie abstraite de mots inconnus était une réponse à langage ravagé par le journalisme. Et ça aussi, c'est très important, ce rapport. Quand Tristan Tzara découpe les mots dans un chapeau pour faire un poème, c'est un article de journal qu'il prend. Et il y a donc cette compréhension au début du siècle qu'on va vers cette énorme aliénation que seront les grands moyens de diffusion. Mmh. Et l'emprise sur le langage de ce que seront les médias, en somme, qui seront donc définitivement l'uniformisation de la langue pour tous. Alors qu'on est encore à une époque où le rapport au langage passe par celui des écrivains.
Et quelqu'un d'autre, en Autriche, je pense à Karl Kraus, dénonçait cette même emprise de la langue journalistique.
Et sans doute, oui, que pas par hasard, Kraus ou Pensars ou Picabia ou Schwitter se sont retrouvés publiés par ou Cravant, par Champ Libre, par Floriana, par Gérard Lebovici, Florian Lebovici et leurs enfants, Lorenzo Valentin et Nicolas.
Alors on revient à Zurich où se retrouvent aussi bien des Allemands comme Hans Richter et puis le Roumain Tristan Tzara, qui était très jeune, qui avait 19 ans quand il arrive à Zurich, Marcel Janko, Roumain, lui aussi, Hans Harp, Picabia, qui viendra les rejoindre en 19, des femmes, Sophie Tauber-Harp, Annie Hennings, et pour la première fois, on a l'impression que les femmes sont, c'est vous qui le soulignez, sont acceptées comme artistes à part entière. Et puis, cette soirée du 14 juillet 1916, au cabaret Voltaire, avec le manifeste lu par Hugo Ball, et deux ans plus tard, en 18, le manifeste Dada, signé par Tristan Tzara. Dada n'est ni un dogme, ni une école, mais plutôt une constellation d'individus et de facettes libres, précisait Tzara à l'époque, et on revient à ce que vous disiez tout à l'heure. Cette constellation de singularité, d'individualité.
Et, alors, les femmes étaient déjà reconnues en tant qu'artistes à part entière dans le mouvement futuriste russe, dans le cubo-futurisme.
Oui.
Et d'ailleurs, les Russes ont toujours été, sur ce plan-là, des pionniers. Les femmes jouent un grand rôle dans la création des bibliothèques, se sont beaucoup battues pour la culture dans la Russie, même pré-révolutionnaire, parce que la Russie post-révolutionnaire, au fond, a été assez hostile à l'émancipation par l'avant-garde. Très vite, là, on aborde un autre sujet. Mais alors à Zurich, l'important, c'est que effectivement toutes les individualités créatrices se sont exprimées et que Tristan Tzara était un catalyseur, plus que quelqu'un qui voulait, par exemple, que les arts plastiques soient une illustration visuelle de principes littéraires. Et je pense que c'est extraordinairement important parce que ça lui a insufflé à lui aussi une très grande liberté dans sa propre pratique en tant qu'écrivain, de voir Harp faire des collages de manière très libre mais très rigoureuse. Il faut voir aussi que dans les collages de Harp à cette époque-là, il y a ce côté libre mais construit qui inaugure beaucoup plus que le futur surréalisme qui est en général présenté comme la succession de Dada, qui inaugure beaucoup plus en rapport avec le constructivisme. Donc des artistes comme Kurt Schwitters ou Raoul Haussmann, beaucoup plus que Max Ernst, par exemple, qui est lui la charnière entre Dada et un surréalisme beaucoup plus narratif, littéraire et même parfois figuratif, tout simplement.
Alors c'est en partie grâce à Hans Richter, je crois, et que Dada se propage à Berlin en 1917. Non.
En fait, plutôt par Wolfsenbeck, qui passe quelques mois à Zurich et puis gagne Berlin et crée un groupe Dada à Berlin en 18.
Et alors, dans cette société de l'immédiat après-guerre, société dont Berlin est la capitale, disons, en plein effondrement, vous dites que l'inoculation de Dada produit une détonation à double détente artistique, mais aussi politique. Et donc, peut-être la spécificité du mouvement à Berlin réside dans ce militantisme politique beaucoup plus prononcé, dans le fait que le mouvement se trouve mêlé aux bouleversements sociaux, au mouvement à la révolution spartakiste.
Oui, alors évidemment, ça c'est ce qui rend Dada si crucial et fascinant à l'époque et aujourd'hui, c'est qu'il y a eu une conjonction d'une situation politique et artistique, c'est-à-dire que outre le fait qu'il était déjà révolutionnaire en soi à l'époque de faire un collage, qui était une atteinte violente à l'ordre du discours, ou en tout cas à l'ordre du discours tel qu'il était mis en place par la culture dominante, comme on dit, c'est qu'il y avait déjà un impact considérable à Zurich en tant que création. C'est trouvé à Berlin, du fait d'une situation tout à fait dramatique, une ville en ruine, affamée, très bien décrite par les dessins de Gross, par exemple Georges Gross, dans une situation extraordinairement intéressante. Pourquoi ? Parce qu'il y avait en Allemagne à cette époque-là, donc sur la défaite, une espèce de rumeur sur le fait que la gauche ou l'extrême gauche avait été l'ennemi intérieur qui avait au fond sapé le moral des troupes et de l'Allemagne en critiquant cette guerre. Il faut donc savoir qu'il y avait une gauche et une extrême gauche en Allemagne qui étaient totalement opposées à cette Première Guerre mondiale. Des gens comme Georges Gross et qui voyaient très bien vers où on allait. Mais il y avait aussi l'empereur et toute cette extrême droite, ou cette droite par ailleurs antisémite d'ailleurs, ce qui n'est pas inutile à rappeler quand on parle du destin de l'Allemagne, qui était en place et qui a fait cette guerre, donc cette guerre terrifiante, à nouveau, je vous dis, très bien décrite par Gross dans ses dessins. Et les dadaïstes ont très bien vu aussi une situation qui se profilait, qui était très dangereuse à tous égards. C'est-à-dire qu'eux, en tant qu'artistes, au fond, voulaient, comme disaient les situationnistes par la suite, que la révolution soit au service de la poésie et non pas la poésie au service de la révolution, comme l'aurait voulu à l'époque l'extrême gauche allemande. Pour donner un exemple, quand il y a eu la première foire Dada internationale à Berlin, il y a eu les articles les plus favorables ont été donnés par quelques critiques intelligents dans une presse libérale. Ils ont bien sûr été attaqués violemment par la presse conservatrice, mais les attaques les plus violentes venaient de l'extrême gauche. Donc des militants d'extrême gauche, qui étaient évidemment une faction importante dans l'histoire allemande, puisque c'était au fond cette avant-garde politique qui s'était opposée à la guerre et qui a voulu, et qui a d'ailleurs arrêté cette guerre. Il faut savoir que les soldats ouvriers ont, par exemple à Bruxelles, Clément Pansars le raconte, Karl Einstein aussi, Karl Einstein, le dadaïste allemand, qui a par la suite était un grand ami de Braque et un grand défenseur du cubisme, et était à la tête des soldats ouvriers à Bruxelles, où ils ont arraché leurs insignes aux gradés qui ont dû se réfugier à l'ambassade d'Italie. Et les troupes allemandes sont rentrées de leur propre autorité, celle né de la révolution spartakiste en Allemagne. Donc, ça nous mène très loin, mais il y a donc eu cette conjonction politique et artistique avec le fait que les artistes dada ont dit « Attention, il est hors de question pour nous de faire un art à thèse, un art prolétaire. » Alors, avec les thèses qui ont été défendues par la suite, par Kurt-Schwitters, un artiste, une fois qu'il est un artiste, n'est plus un prolétaire ni un bourgeois. Il est appelé à une transformation de l'individu à vocation universelle.
Kurt-Schwitters, justement, qui incarne à lui seul, peut-être, l'esprit dada à Hanovre. Kurt-Schwitters qui substitue aux pigments traditionnels de la peinture des détritus trouvés, prélevés dans les décharges publiques. Je dis, qui incarne peut-être à lui seul l'esprit dada, mais qui en même temps est le dissident par excellence du mouvement dada.
Oui, alors Schwitters, justement, c'est très symbolique. Bon, c'est pas vraiment dans les décharges publiques qu'il a trouvé ces objets, mais dans la rue, tout simplement. Il a dû se promener sur des décharges, j'imagine. Mais disons que la légende authentique, qui reflète des éléments authentiques, veut qu'il avait toujours les poches pleines d'objets. Et il fait ramasser des tickets de métro, des morceaux de papier, des clous, il ramassait des roues, des parapluies. Et avec tout ça, effectivement, il a fait des assemblages et des collages. Et le paradoxe veut que le club dada de Berlin, en Allemagne, l'ait trouvé trop peu politique. Parce que Hulsenbeck était effectivement plus ouvertement à gauche et plus du côté des spartakistes. L'aile véritablement politiquement à gauche, c'était Georges Gross, qui faisait des très belles aquarelles, mais alors là aussi, de manière très révélatrice, trouvait justement que Schwitters, c'était du garbage art, de l'art poubelle. Et quelle que fût l'intelligence et le talent de Gross, il n'a jamais admis ce type d'art. Donc vous voyez, il y avait dans la protestation deux types de travaux très différents. Et symboliquement, il est extraordinaire que ce soit finalement Kurt Schwitters qui, en 23, a été appelé à écrire un manifeste signé par Tristan Tzara, Van Doesburg, Harp, contre l'art prolétarien. C'est-à-dire que c'est un texte qui, en 23, dénonce déjà, en toutes lettres, la dictature communiste.
Wie der Sender im Pittelto der Jüka Rinzeke de Bibi hinskermü Zio hinze zio rinskermü Racke de Bibi Rum tüfto Zio hinze zio hinskermü Zio hinze zio rinskermü Racke de Bibi Racke de Bibi Fims bewe te zeu U T T W B fünf O B B B B B O T T T T T
Ursonate Kurt Schwitters, un enregistrement de 1932, Marc Dachy.
Oui, alors Kurt, sans jeu de mots. Une nouvelle fois abrégé, c'est 3:24, ça prend trop de temps en radio, donc on coupe, pour des raisons de studio. Oui, je trouve merveilleux que ce soit l'auteur de cette sonate abstraite, dont il a lui-même fait une version abrégée, de 3:24, que nous venons d'abréger, qui a été le fer de lance de l'opposition à la volonté d'un art prolétarien. C'est au nom de cette abstraction-là, et donc c'est très important de le rappeler, l'abstraction est l'enseigne de Dada, contre toute sclérose politique ou toute sclérose des vocabulaires.
Alors, autre lieu, autre foyer du mouvement dada, où ce mouvement peut-être connaît son apogée, en tout cas de reconnaissance, et en même temps sa fin, sa mort, Paris, entre 1920 et 1923. Paris, dites-vous, recycle dada. Un dadaïsme littéraire et polémique prend le pas sur la révolution esthétique et culturelle globale du noyau fondateur de Zurich. Et donc cette renaissance de Dada n'aura lieu, dites-vous, qu'au prix d'un malentendu historique ultérieur, la confusion entre Dada et le mouvement fondé sur ses décombres, le surréalisme, pour ne pas dire vous ajoutez non seulement décombres, mais assassinat.
Oui. D'ailleurs, l'assassinat, c'est plutôt Jacques Rigaud qui l'a ouvertement attribué à Breton. Oui, alors quand Sarah gagne Paris en 1920, il gagne Paris seul, sans ses amis artistes. Harpe arrivera beaucoup plus tard, ou sans Marcel Janco, sans Hugo Ball, sans Hans Richter. Donc il se retrouve écrivain, comme il était au départ, poète symboliste en Roumanie. Et donc je pense que le fait d'avoir été coupé de ses pratiques hardies, les collages, les procédures créatrices, type hasard, photomontage déjà, il s'est retrouvé pris dans un combat idéologique, c'est-à-dire qu'il a participé en somme à la formation de ce que sera le surréalisme, qui sera un grand mouvement idéologique d'opposition et un grand mouvement littéraire, mais qui n'aura plus cette richesse, ce feu d'artifice non dirigé justement que sera le surréalisme, qui est aussi un feu d'artifice, mais beaucoup plus verbal, et où bien sûr les artistes peintres sont inféodés à l'image de Lautréamont, la rencontre fortuite d'un parapluie et d'une machine à coudre sur une table de dissection. Et donc il y a un type de collage et d'esthétique qui sera mis en place par le surréalisme.
Alors Marc Dachy, il faudrait beaucoup plus de temps que nous n'en avons, à la fois pour écouter en entier l'Ursonate de Kurt Schwitters et pour épuiser ou en tout cas approcher votre livre plus en détail, votre livre qui consacre la dernière section à Dada Post, à la postérité de Dada, donc à des mouvements comme Fluxus, par exemple. Il faudrait peut-être se poser la question, savoir s'il y a une réelle parenté d'esprit entre Dada et ces mouvements qui s'en sont inspirés, mais ce sera peut-être pour une autre fois. Et puis, il y a dans votre livre aussi la chronique, c'est-à-dire une chronologie qui va de 1912 à 1968. 1912, ça commence par l'exposition futuriste à Paris où Duchamp rencontre Boccioni et Severini. Par parenthèse, je sais que vous pensez que le futurisme italien n'est pas un mouvement d'avant-garde, et vous l'avez prouvé dans un texte bien senti. Et puis, à l'autre extrême de cette chronique, 1968, Merce Cunningham, justement, et c'est un hommage à Merce Cunningham que je voudrais terminer, justement, par cette évocation de son ballet « Walk Around the Time », conçu à partir du grand vers de Duchamp, et vous parlez de la première au Festival de Buffalo, avec Marcel Duchamp sur scène, entre Karen Brown, la danseuse, et Merce Cunningham. Et voilà, alors ces deux dates, 1912, très rapidement, exposition futuriste qui n'est pas une avant-garde pour vous, et Merce Cunningham, Marcel Duchamp sur une scène à Buffalo.
J'aurais dû commencer par 1911.
Le manifeste du futurisme, non ?
Non, le manifeste du futurisme, c'est 1909. Et d'ailleurs, pour moi, le futurisme n'est pas qu'italien, il y a surtout... Russe. Extraordinairement important, le futurisme russe de Khlebnikov, Mayakovsky, mais surtout 1911, c'est Impression d'Afrique, où de Raymond Roussel, où vont Marcel Duchamp et Apollinaire ensemble.
Marc Dachy, merci d'avoir été avec nous ce soir. On peut rappeler le dernier numéro de la revue Luna Park,
oui,
été 2009.
Oui, c'est un très beau numéro. Mais je saisis quand même l'occasion pour dire que pour la première fois dans l'histoire de l'édition française, une revue est en passe d'être détruite, puisque le premier numéro de la revue Luna Park 1, Les Héritiers d'Artaud, me reprochant d'avoir publié un inédit, en réclame les exemplaires, et la cour d'appel a accédé à cette demande. Donc la revue, pour l'instant, est les anciens. Le premier numéro est en passe d'être volé par la famille Artaud, ce à quoi je suis en train de m'opposer, de me battre.
Et on vous soutient, Marc Dachy.
Merci
d'avoir été avec nous. C'était Affinité élective, une émission de Francesca Isidori à la technique Gilles Gaillard, réalisation Brigitte Aléo, une émission que vous pouvez écouter ou réécouter sur le site franceculture.com. Merci à tous.